Amis de la poésie et de Radio Occitanie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Le chagrin, disait Alain Duhaut, est un éclat de verre dans la gorge. Il n'y a qu'un poète pour trouver une si belle image. Alain Duhaut, qui a écrit un très beau livre, La poésie, le ciel, des petites méditations lyriques, c'est aux éditions Gallimard. Il dit ceci, Alain Duhaut, la poésie passe par ses expériences. La mort, la rage, la lecture, la contemplation, la marche, la rencontre, le soir et le matin, le silence des mots, l'importance d'un brin d'herbe, l'élan de l'animal, son souffle, le désir, la peau, les couleurs, la mélodie des choses que décrit Rainer Maria Rilke. Et il cite Rainer Maria Rilke, que tu sois environné par le chant d'une lampe ou par la voix de la tempête, par le souffle du soir ou le gémissement de la mer, toujours veille derrière toi une vaste mélodie tissée de mille voix où de temps à autre seulement ton solo trouve place. Si la poésie a un sens, poursuit Alain Duhaut, il faut le chercher dans tous ces feux qui brillent sur la mer de nos nuits. Ces feux, eh bien, depuis 1983 maintenant, avec Claude Bretin, eh bien, nous vous les faisons découvrir sur Radio Occitanie. Je voudrais rappeler à nos auditeurs une très belle rencontre qui aura lieu dans un lieu merveilleux pour la poésie, c'est le centre Jobousquet et son temps, maison des mémoires, la maison Jobousquet, donc 53 rue de Verdun à Carcassonne, là où a vécu Jobousquet. Il y aura le samedi 29 janvier à 15h, Lydie Salvaire qui aura un entretien sur son dernier livre que je vous invite vraiment à vous procurer, c'est « Rêver debout ». Entretien qui sera accompagné de lectures, extrait donc de ce livre qui parle du Quixote par l'auteur elle-même, suivi de bribes pour Joan Jordà par Lydie Salvaire et René Pignès, le directeur du centre Jobousquet, et la participation du guitariste et compositeur de musique extraordinaire Pedro Soler, dont nous allons entendre d'ailleurs une petite musique de fond tout à l'heure. Voilà, je vous invite donc à vous rendre ce samedi 29 janvier à 15h à cette rencontre qui sera vraiment une rencontre très forte, et puis à lire Rêver debout, qui est vraiment un livre extraordinaire sur le Quixote, et qui est un livre d'une contemporanéité absolue. Elle dit ceci, Lydie Salvaire, à Miguel de Cervantes, « Monsieur, je vous le dis tout net, je ne suis pas d'humeur à rire, et les façons dont vous traitez votre Quichotte ne sont pas de mon goût. Vous prétendez que son cerveau, tout empli des fadaises qu'il a lues dans les livres et qu'il croit véridiques, l'amène à commettre des actes insensés. Est-il insensé de considérer que la littérature n'est pas lettre morte, parure de cheminée, boniment inutile, mais plutôt l'être vive, ardente expérience intime qui bouleverse la vie. » Et c'est une occasion qui est donnée à Lydie Salvaire pour faire un petit peu la critique très positive de notre société et de notre façon de vivre. Et puis il y a cette exposition Joan Jordà, donc ce centre de mémoire, Joan Jordà, qui est certainement le peintre le plus important, entre guillemets, et le plus magnifique qu'il y ait eu à Toulouse depuis pas mal de temps. Toulouse qu'il a quasiment ignoré, elle a l'habitude de ne pas trop s'intéresser véritablement à ces artistes, ou quand elle s'y intéresse, c'est souvent de façon posthume. Joan Jordà, donc, qui sera exposé, là, au centre Jobousquet, à Carcassonne. Et on va lire des notes d'atelier de Joan Jordà, donc des notes, par exemple, sur l'Inquisition, où il dit « Inquisition, enquête, question, une ténébreuse affaire qui dure, intolérance, destruction, le grand inquisiteur a changé de cravate, mais il est toujours là, avec son œil glacé, et le fer dans la plaie, fait toujours aussi mal. L'Inquisition, elle en parle aussi, Lydie Salvaire, dans son livre « Rêver debout ». John Jourdain qui disait « Ma peinture aussi veut poser des questions, mais pas les mêmes. Moulin à images, machine à broyer les barreaux, cris solaires, empreintes, signes qui racontent l'histoire délirante de l'homme, sa folie. Ma peinture, un acte quotidien et fraternel, un travail comme un autre. » John Jourdain, « Je n'ai aucun goût, disait-il, aucune disposition pour les religions, les anniversaires, les commémorations, les cérémonies, les protocoles, les défilés, etc. J'aime les hommes dans leur simplicité, dans leur quotidien. » Et cette simplicité, ce quotidien, et rien n'est plus difficile que de réussir justement cette simplicité, c'est ce qui demande peut-être le plus de sincérité et aussi le plus de maîtrise et le plus de talent. Nous allons le retrouver chez un poète qui est un poète de notre région, des grands poètes de notre région, que j'espère que l'on reconnaîtra sa valeur. Il s'agit de Cédric Le Pinvin, qui publie aux éditions Une, Un sol trop fertile. Auparavant, je vais faire une annonce rapide d'un livre dont j'ai déjà parlé un petit peu, mais pour lequel j'ai attendu avant de pouvoir véritablement le traiter, tellement ce livre me semble dense et il mérite à lui seul, bien entendu, une émission toute entière. Mais je veux rappeler quand même à nos auditeurs l'existence de ce livre parce que, dans la mesure du possible, qu'ils se le procurent, il s'agit de Christian Moncelet. Christian Moncelet qui publie dans la collection, une collection avec un très joli nom, « Poète trop effacé », des éditions Le Nouvel Athanor, donc une anthologie qui est absolument remarquable, un livre qui vous coûtera 16 euros. Christian Moncelet est né en Algérie, d'une mère auvergnate et d'un père qui, lui, vient de la Basse-Bretagne. Il a vu le jour un 29 février 1944, gagnant ainsi sur le temps, dit Christian Moncelet lui-même, un an tous les 4 ans. Il vit toujours à l'ombre de moustaches de Vercingétorix et des années bissextiles. Marié à une Marguerite, il est aujourd'hui avec ses 3 filles entourées de fleurs. Agrégé de lettres modernes en 1967, docteur du 3e cycle en 1972, docteur d'État grâce à une thèse consacrée à René Guicadou, thèse remarquable, remarquable. J'ai rarement lu quelque chose vraiment d'aussi fort, d'aussi puissant, d'aussi réussi, d'aussi vrai sur René Guicadou. C'est une thèse qu'il a soutenue en 1988 et qui fera un livre magnifique, donc qui a été depuis édité. Moncelet fonda dès 1976 la revue Arpa, revue qui connaît des difficultés, et durant plusieurs décennies, il publia d'ailleurs des poèmes dans cette publication, la revue Arpa, animée de longue date, dont par un grand poète aussi, deux grands poètes, hein, Gérard Bochelier, poète dans la spiritualité véritablement, et Jean-Pierre Siméon, dont il est inutile de parler car il est devenu un petit peu le porte-parole de la poésie contemporaine française. La poésie de Christian Moncelet est toujours lisible par tous, même les enfants. Moncelet a été acteur et metteur en scène, c'est un batteleur infatigable qui s'est produit dans des fêtes du livre, pour des médiathèques, en milieu carcéral. Il demeure main tendue au bouclier du bonheur, c'est son expression, avec notre regretté Michel Baglin. Il ne retient pas ses mots dans sa poche fraternelle. Il avoue aimer trinquer en buvant cul sec, l'alcool des vents. L'alcool des vents, c'était le titre d'un des grands recueils de Michel Baglin. Et cette ébriété est rare, elle est rebelle, et cette ébriété ne peut que nous plaire, ce que dit son éditeur Jean-Luc Maxence. Christian Moncelet, donc dans le Nouvel Athanor, dans la collection Poètes trop effacés, qui fera l'objet de la prochaine émission. Je voulais quand même vous signaler ce livre pour que vous essayiez de vous le procurer. Et je vais vous lire ce poème en mémoire de Michel Baglin. Michel Baglin qui était né en 1950, qui nous a quittés en 2019. D'une façon prématurée et pour moi qui est un peu incompréhensible. Je n'arrive toujours pas à réaliser que Michel Baglin n'est plus là. Michel Baglin qui a été auteur de nombreux livres, dont L'Alcool des Vents, hein, Le Cherche Midi, De Chair et de Mots, ça c'était au Castor Astral. Michel Baglin qui a été maintes fois notre invité, bien sûr, ici à l'émission Les Poètes, et que vous pouvez toujours écouter, et ça, il faut saluer quand même la technologie contemporaine et Claude Bretin pour avoir mis en place ce site Les Poètes tout attaché sans accent .site pour nous permettre d'écouter maintenant et toujours la voix de Michel Baglin quand il fut l'invité de l'émission Les Poètes. En mémoire de Michel Baglin, de Christian Moncelet. Michel, nous étions frères de condition, selon tes mots propres, assigné à résistance contre la désolante délapidation du trésor verbal, nous fûmes les tenaces et pacifiques militants d'une écriture de cœur franc pour affronter les effrontés qui balafrent d'ombre le minois charmeur de la vie. C'est un devoir que de bâillonner les maldisants à force de métaphores bien taillées pour la cible. Toi, qui sus fondre les pas et les mots dans une même alliance, ah, l'envoûtante marche d'alliance, tu as tissé pour nous un réseau serré de sentes escarpées, de venelles ombreuses, une trame infinie de rêves vicinaux, de désirs de grands chemins, sans oublier tes chemins de verre pour des échappées ferroviaires. Tu as les bons trains sur notre terre, à la traque des grands et petits bonheurs, comme le chasseur magicien qui ramène dans son grand chapeau un bon gibier à partager. Dans un élan de virile tendresse, tu aimais trinquer, cœur contre cœur, avec les compagnons de vie, en buvant cul sec, l'alcool des vents. Cette ébriété rare est longue en notre âme, comme un grand jour moelleux dans le palais du temps. Christian Moncelet, donc, c'était en mémoire de Michel Baglin, quand il parle des trains, hein, tu as les bons trains sur notre terre, et quand il dit sans oublier tes chemins de verre pour des échappées ferroviaires, il faut savoir que Michel Baglin adorait les trains. Il avait, dans sa jeunesse, travaillé d'ailleurs comme vendeur de sandwich, en passant de wagon en wagon, hein. Il adorait voyager en train. Il a beaucoup écrit d'ailleurs sur les trains, sur la gare de Canfranc, etc. Christian Moncelet, nous en reparlerons, un excellent livre. Merci à Jean-Luc Maxence de nous avoir offert cette anthologie de ce poète qui est un poète trop discret, comme souvent les grands poètes. Christian Moncelet, donc, aux éditions Le Nouvel Athanor. La poésie, pour revenir à Alain Duhaut, la poésie passe donc par ces expériences dont j'ai parlé, mais il disait, Alain Duhaut, il n'y a pas de vérité en art, c'est même ce qui le distingue. La poésie, comme l'art, comme la musique, n'est jamais instrumentalisable, ça c'est important. L'impasse de la poésie engagée, dont l'impasse, il dit bien l'impasse de la poésie engagée, en est l'exemple historique le plus caractéristique. Elle ne répond pas à la demande, elle est comme le ciel, qui ne répond à aucune vérité, qui est sans cesse changeant, qui n'a aucun but, aucune fonction, qui est sans fin, qui ne porte pas de vérité, puisqu'il n'est jamais appréhensible. Voilà, je voulais lire ces quelques mots d'Alain Duhau et passer maintenant à notre poète, notre grand poète qui vit dans le Tarn-et-Garonne, Cédric Le Penvin, avec son beau recueil « Un sol trop fertile ». Alors, Cédric Le Penvin, en raison des circonstances sanitaires, selon l'expression consacrée, qui commence à être un peu pénible, je n'ai pas voulu l'inviter. Mais j'espère pouvoir le faire dès que les temps deviendront un peu plus raisonnables. Cédric Le Penvin, il est né en 1980. Il est agrégé de lettres modernes, comme Jean-Pierre Siméron. Hein. Il vit et il enseigne donc dans le Tarn-et-Garonne. Il est spécialiste de l'œuvre poétique de Thierry Metz, dont je parlerai également dans peu de temps, puisque les éditions Ménard sont en train de ressortir les recueils qui étaient malheureusement épuisés de Thierry Metz, puisque Thierry Metz n'est toujours pas dans notre collection nationale, si l'on peut dire, Gallimard. Hein. Et il faudra quand même qu'il y arrive un jour. Il a publié une dizaine de recueils où se développe une interrogation du biographique dans le monde, entre réminiscences et voyages, entre quotidien et introspection. Et là, on va retrouver, dans ce que je viens de dire, cette interrogation du biographique dans le monde, on va retrouver des gens comme Joël Vernet, par exemple, ou même Pajac, hein, et, qui ont la même préoccupation et la même posture, non seulement dans l'écriture, mais dans la vie, Et entre les réminiscences et les voyages et le quotidien et l'introspection. Voilà, on va retrouver ça dans ce recueil. Mais comme on l'a trouvé chez Joël Vernet, chez beaucoup actuellement de nos poètes contemporains qui ne séparent pas ce quotidien de la réflexion métaphysique. L'écriture de Cédric Le Penvin, il cherche à cautériser les plaies de l'enfance et du temps présent. Dans une quête, ça c'est important, dans une quête constante de clarté. Cédric Le Penvin, il a été pris Voronka en 2004 pour son livre « Elle, le givre » qui avait été paru aux éditions Jacques Brébon, dont il faudra aussi parler, excellentes éditions Jacques Brébon. Et il a eu le prix Yvan Gol pour son recueil « Nuit de peu » qui est paru aux éditions Tarabuste, hein, qui sont maintenant d'ailleurs des éditions qui prennent de plus en plus d'importance dans l'histoire de la poésie contemporaine, hein, ces éditions Tarabuste. Ça, il y a peu de temps, c'était en 2016. Et alors, ce que je vais vous lire là, « Un sol trop fertile », ça fait suite un petit peu à ce qui a été une trilogie, qui devient maintenant quatre recueils, aux éditions Une. C'était Bouche Suie qui avait paru en 2015, puis Joachim en 2017 et Verger qui a fait l'objet d'une émission ici, Radio Occitanie, Verger en 2019. Voilà. On est dans la lignée de ces recueils de ce style. Alors, je vais, sans plus attendre, vous lire des extraits donc de ce livre, Un sol trop fertile, paru aux éditions Une. En exergue, une citation de Henri Michaud, extrait d'Un certain plume. Cependant, un grand rustre d'agent, par-dessus son épaule, lui disait « Écoutez, je n'y peux rien, c'est l'ordre. » L'ordre. Dans le cadre de la fenêtre ce matin, 11 février 2018, je vois un ciel de gêne boudin. Je me dis que je pourrais le prendre en photo tous les jours, à la même heure, pour constater l'infinie variation du monde. Puis je passe un coup de balai. Voilà. Alors, il y a dans ce poème, il y a en définitive le résumé de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la fois cette réflexion métaphysique sur l'infinie variation du monde, hein, qui était aussi ce que disait Alain Duhaut, hein, en disant que le ciel, il dit, elle ne répond pas à la demande, elle est comme le ciel qui ne répond à aucune vérité, qui est sans cesse sans gens, qui n'a aucun but, aucune fonction, qui est sans fin, qui ne porte pas de vérité, puisqu'il n'est jamais appréhensible. Eh bien, voilà que Alain Duhaut et Cédric Le Penven dans le poème, dans la formule ramassée extraordinaire du poème, eh bien, ils nous disent la même chose, et ils nous disent quand même une chose essentielle, hein. Ils nous disent une chose essentielle, c'est que la vérité, en définitive, ce qui porte la vérité, ce n'est jamais appréhensible. Voilà. Et puis, il termine en « puis je passe un coup de balai ». Voilà. Et là, mon cher Cédric Le Penven, je me permets de pouvoir te rejoindre en fraternité, parce que moi aussi, très souvent, je passe un coup de balai. Voilà. Donc le quotidien revient. Se réveiller avec ce visage qui défigure. Je ne parviens pas à soutenir les regards. Ma propre gêne dans le regard des autres que je gêne. Ces derniers temps, je supporte mieux cette masse articulée qui me déplace du lit vers le jardin, vers le travail, vers le bureau, exténuer les muscles pour être un peu tranquille. Serait-ce la sagesse ? Donc voilà, le poète, d'abord Cédric Le Penven, c'est un grand bosseur. Il prépare une thèse actuellement, il n'arrête pas de travailler, quand il ne travaille pas dans son bureau, il travaille dans son jardin, dans son verger. La sagesse. Tu ne sais pas rester 5 minutes assis sur un muret, à regarder les menues agitations de branches sans feuilles au mois de février, la lumière aiguë du soleil d'hiver qui révèle chacune des failles des falaises, à respirer le parfum obsédant des végétaux qui se décomposent du fond des combes. Toujours cette résurgence en soi qui charrie des souvenirs d'entretien sans lunettes dans cette maison qui n'est pas sûre, les larmes aux yeux. Quand tu songes au fils qui te réinvente, faudrait pas écrire des choses pareilles. La nuit résonne de bavassements et d'insultes. Tu tournes et retournes dans le lit de la chambre d'amis où tu te réfugies pour ne pas gêner le sommeil de l'aimé. Les mauvais rêves sont contagieux. Je ne veux pas souiller ces dérives d'eau et de voile. Derrière les paupières, un œil se tourne vers la fantaisie crânienne où des enfants roulés en boule attendent que le père s'épuise. Les bras serrés autour des tempes sont une enceinte dérisoire quand les coups pleuvent de l'intérieur. Non. Je refuse de me laisser contaminer par le venin de cet enfant blessé, amoureux de sa blessure. Grandir, c'est peut-être cesser de croire qu'une douleur nous ressemble plus qu'un sourire. Une blessure est un sol trop fertile. J'écoute les paroles de mon fils qui déroule une histoire comme une fontaine dans un village de montagne. Un homme a cherché toute la nuit où trouver un peu de chaleur. Il s'est endormi là, contre ce rêve de transparence. Ne m'en demande pas comment je m'appelle. Un nom et un prénom ne délimitent que les contours d'une ombre. Ni quel est mon âge. J'ai l'âge de ceux qui ont assez mâché leur enfance. Demande-moi pourquoi je plante des arbres par dizaines dans mon jardin. Pourquoi je longe les rivières des heures durant. Ce que je regarde par la fenêtre de mon bureau ne me demande pas où j'habite, ni quel est mon métier. Je sais juste que j'aime donner la parole aux enfants et aux adolescents. Que les fruits que je cueille trouvent souvent les bouches de l'aimé et de notre fils. Qu'il n'est pas de bonheur plus grand que de les voir recueillir de la pomme dans un geste précipité le jus d'une pêche qui coule au bout du menton. Je gagne ma ration de sommeil en frappant le monde qui m'entoure pour qu'il me ressemble. Depuis quelque temps, je redeviens l'adolescent qui ne savait où se réfugier quand la colère fissurait la maison et les visages. La bouche échappe une formule très nue qui te trouble en danger d'être soi. À chaque regard croisé, la profondeur vertigineuse des autres nous avale et nous rend à nous-mêmes un peu sous et étonnés d'être si liquides. Je m'enferme des heures entières entre des feuillages de livres, fenêtres grandes ouvertes. Les hautes herbes, liserons, follenvoine, graminées légères, s'immiscent entre les pages, sèment des graines qui écloront dans les gorges. Quand je saisis un livre au hasard, dans le désordre de ma bibliothèque, les phrases que je prononce laissent un léger goût de chlorophylle sur le bout de la langue, juste à côté des mots qui se dérobent. Il faut être seul, bien seul, pour approcher de sa voix et inventer le timbre doux et raillé à la fois qui convienne au verbe éblouir. Nous sommes à table et notre ami ne se souvient plus qu'il faut écouter les autres, parfois. Il a maigri, ses dents ont jauni. Hier soir, il a brisé des verres, de la vaisselle, sa propre main contre un mensonge. C'est le qu'il aime, s'est maquillé pour un autre devant lui. Nous ne savons plus comment entendre ces paroles précipitées, ni que faire des mots noirs qui pèsent lourd dans les pommes, posés à même la table entre le dessert et le café. Ils prennent toute la place. nous avons honte de rentrer ce soir dans nos maisons. Lui dort dans une caravane. Il dit qu'il n'a pas froid et nous montre une photographie prise avec son portable d'un thermomètre levé, moins 4 degrés. Il dit aussi qu'il va démissionner de son travail parce qu'il doit planter des arbres. Et s'il avait raison. Voilà. Texte aussi qui est symptomatique de la réussite extraordinaire donc de ce recueil et de ce qu'est la poésie maintenant. Donc, qui est, il y a là dans ce poème un engagement qui est beaucoup plus fort que toutes les poèmes de cette poésie engagée là des années 60, 70 ou même qui continue par certains, hein. Qui nous entraîne dans la familiarité de notre monde, ce qui nous est familier de voir, hein. Tout le monde connaît peut-être un ami comme ça qui se trouve un petit peu dans la dèche tout d'un coup et qui est obligé de vivre dans une caravane, et avec cette dernière réflexion, il va planter des arbres, et s'il avait raison, alors oui, planter des arbres comme le fait Cédric Le Pinvin, comme milite notre ami Casimir Pratt, le poète Casimir Pratt, qui milite dans une association au plus haut niveau, hein, pour planter des arbres. Voilà. Et s'il avait raison, ben oui, peut-être qu'il avait raison. Tu ne sors plus de cette colère. Cela fait plusieurs semaines que tu rumines les paroles humiliantes qu'un collègue a adressées à tes élèves. Tu te vois l'attraper au col, le projeter au sol, lui écraser la glotte. Dans ton miroir, tu reprends le visage de ton père, tordu par un cri silencieux, très écrasé, salive amère. Déglutir ne fait que contaminer l'intérieur. Te voilà poursuivi, les coups lâchés pour repousser le visage qui défigure, cingle tes propres joues. Je parerai d'un bras les coups de l'autre main. Le quotidien, toujours, qui appelle cette réflexion en définitive sur la totalité de la vie. Mon fils est malade, donc je ne peux aller au travail. La nuit, lourde comme un pull tombé dans le puits, colle au torse, empêtre les mains, étouffe les rêves. Le verbe « ahanner » pour dire ce corps à corps avec le noir qui abandonne, exténué, sur la berge. Je ne peux aller au travail. Donc mon fils est malade. Ne lui demande pas son nom si tu veux la connaître. Demande-lui à qui elle parle sous la douche et quand elle dort, ce qu'elle répond à la petite fille qui voulait passer sa vie à regarder la mer. Ne m'en veux pas. Ça casse toujours au même endroit, juste derrière la glotte. Pleurer seul, est-ce encore pleurer? N'est-ce pas plutôt essorer une colère qui ne supporte plus les paupières? Je gagne les plages océanes, à droite l'infini, à gauche l'infini. On n'épuise pas ce qui épuise. Rattrapé de nouveau par cette impression de marcher sur un bateau en pleine mer. Je ne fais même plus semblant de sourire aux anciens amis croisés au marché. Ils doivent se dire que je suis devenu hautain ou con, tout simplement. Non, pas tout à fait tort. Si être con, c'est avoir peur de sourire et de pleurer. Plus rien qui ne soit assez tendre pour ne pas me blesser. Ni le sol meuble où le soir accueille mes pas, ni la voix de l'aimé qui s'adresse à notre fils comme il peine à s'endormir. Ni l'inconscience assurée comme destination, passage de la vie à la mort, de la vie à la vie, peut-être. Ni cet espoir qui tient éveillé, adossé au mur plein ouest, qui se gargarise de rouge, plus un mot qui ne soit assez dur pour soir à la bouche. Reste le sentier qui mène vers le soir, la rivière où plongeaient deux pommes réunies, quelques pierres calcaires qui furent un océan, s'entrechoquent au fond de la poche. Reste la chienne allongée dans la pelouse, qui surveille l'invasion imminente des chats. Ma femme qui rentre du travail et chante dans l'habitacle de la voiture. Restent les regards échangés, sourire aux lèvres, le geste tendre pour recueillir le mot tendre. J'apprends peu à peu à n'avoir plus peur des mains. Accueillir les heures, dans toute l'étendue de leur spectre. Ce temps à habiter mieux qu'une pierre, de la pomme ou du regard. Accroche-toi à la barque qui accueillit ton poids de vivre, avec mémoire et bouche fendue. Tout ce qui peut devenir pêche très mûre par ces mots. Je ne sais plus marcher. Je titube comme un ivrogne qui cherche au cuvet son vin. Je tente bien de sourire à mes proches, mes collègues et mes voisins. Mon fils répète en boucle qu'il a 3 ans et demi. Ma femme va avoir 40 ans cette année. Un regard de biais me déséquilibre. Une branche brisée me brise. Ce miracle d'une rencontre entre deux blessures qui se mue en baiser, au goût de soir pelotonné dans une enceinte en carton, au goût du sang mêlé à la candeur des mots chuchotés par une petite fille silencieuse. Presque 15 ans que nous vivons ensemble. Et je ne te connais pas. Et comment pourrais-tu me connaître? Nous ne serons jamais mieux ignorés que par ceux qui nous aiment. ne renonce pas à cette part de toi, même si tu deviens salissant, trouble-fête, mauvais goût. Tant pis pour les repas entre collègues, où chacun rivalise d'esprit, cherche le bon mot, la juste salve, pour celui qui hésite au fond de la salle. Tant pis pour les repas de famille, où chacun s'assied sur ses rancœurs et rit plus fort que le rire jusqu'au dessert qui délivre. Profère un mot plus vite que l'injure, comme le coup à la mâchoire fait claquer les rêves. Cette année, moins d'hirondelles encore. Le voisin, chef d'exploitation agricole, les empoisonne pour toucher sa prime. Au sol, ses dents éparpillées, c'est un sourire de gosse. Et puis la technologie qui s'invite, bien sûr, maintenant dans notre quotidien. Tes mains ont délaissé les outils des vrais hommes pour les cliquetis du clavier. Tes aïeux te regardent depuis des caisses fermées sous les berges du Tarn. Tu voudrais qu'ils soient fiers, mais peut-être ne savent-ils rien, pas même le goût de la terre. Tu voudrais pouvoir dire que la main à plume vaut la main à charrue, mais tu ne crois plus ceux qui s'érigent en prophètes et parlent de profil. Tu ne sais plus marcher droit vers le soir. Et tu voudrais faire la leçon, le pauvre homme, le bonjour et le merdre à ceux qui ricanent. Pas un pas qui ne sombre ou ne cède. Franche aiguë, la lumière tranche le cœur de l'œil, fouille comme percée, coupe sans savoir. Un regard n'a pas de mollesse quand la colère triture. Celui qui devance chacun de mes pas arrache les herbes, décèle les pierres qui devaient être un guet. Je bascule et cède à la chute qui me plonge dans l'eau translucide des résurgences. La profondeur avale loin, long, le jour, et tu bascules encore quand tu croyais avoir basculé. Une silhouette échoue dans l'espace de son trouble. Dans son vœu de transparence, ma voix se heurte à son propre timbre. Je dors, fenêtre et bouche ouverte. La nuit glisse dans la gorge comme couleuvre d'amertume, s'enroule autour du cœur qui bat la démesure. Faut-il de la douleur pour que le cri sois beau. Allons, souscris à la pente, délivre ce qui encombre. Attends-toi à croiser les yeux sans regard de masque qui te ressemble, à entendre pleurer un enfant inaudible. Tu ne peux soutenir le regard qu'il t'adresse par-delà les ans. Alors, écoute-le. Voilà 25 ans que je t'appelle depuis le sol de la cuisine, où les coups pleuvent. Même roulés en boule contre le carrelage, les injures que la bouche d'ombre profère m'atteignent et me traversent. Elle me dit qu'elle me hait, qu'elle veut me couper en deux. Je sais. L'intérieur est un vieux tissu qui se déchire encore. La blessure, je la porte au travers du visage en guise de sourire. Regardez tous ce que je suis. J'exhibe ce que j'ignore et qui me ronge. Triple étalé sur ce sol blanc. Gros dégueulasse, tu fais le poète. Ouvre, ouvre-la, mais ouvre-la, te dis-je. Grande comme le trou ensevelir les mensonges qui te percent la langue. Je t'écoute, j'écoute. Tout cogne et tout resserre. Un filet d'eau sale qui gargarise et grasseille l'enfant. Ça finira bien par s'apaiser. Rire. Quelques dessins de téléphone sur mon bureau. Je crois qu'ils me diront pourquoi elle ne sourit plus, ce qui dans ma dérive et ma silhouette l'agace. Moi non plus, je ne supporte plus ce visage, insoluble comme le soleil dans la mer. Quoi qu'en disent les icônes, fatiguées de regard. Et encore, tu ne sais pas tout. La torpeur au réveil, malgré le bonjour enjoué. La nuit passée à tourner et retourner un homme qui ne veut pas mourir allongé. C'est amusant, cette obstination du vivant à se prolonger dans son pourrissement. Le vivant, c'est nous aussi. La foule s'est installée plus rapidement que d'habitude. Je n'ai pas eu le temps de m'habiller. Je marche nu en pleine nuit dans le jardin, à la recherche de celui qui savait s'allonger et écouter sa respiration se mêler à celle du vent dans les frondaisons. J'ai construit notre maison et la cabane pour qu'elle jouisse de l'ombre de grands frênes. La nuit étoilée crible chacune de nos certitudes. C'est émerveillé de cette longue plaie blanche. Beaucoup à penser ce matin. Ouvrir les yeux, inspirer, expirer. Il y a tous les arbres que tu ne sais pas regarder parce que le réel existe trop fort. Du lit où je m'enfonce, les rêves sont des signaux vagues adressés à l'enfant que nous fûmes. Il ne s'endort pas. Merci au soir qui vient apaiser le bonheur. nous avons une main si grande qu'elle saisirait l'oiseau en plein vol sans le soustraire du ciel. Tout est possible entre tes lèvres. L'abandon et l'oubli, le fiel se mue en onguent peu à peu. J'ai acheté des outils pour sculpter du bois flotté. Mon fils à l'école, ma femme au travail. Je passe de pièce en pièce dans le jardin, dans le bureau. Je touche les gouges du bout des doigts. Ça lancine et ça brûle. Tant de colère contre la tristesse. Ce paquet de linge gorgé d'eau qui colle et pèse à l'arrière de la nuque. Tu étais le grand frère, le compagnon fiable, l'ami jovial, le professeur droit et exigeant. Que reste-t-il dans cette maison où l'habitant fait mine de ne pas se souvenir ? Rire. Un homme, rire encore plus fort. Fais vœu de transparence et bois le bitume qui coule du bol que lui tend sa femme. Quand vas-tu enfin dire ce qui te brûle et nous transperce ? Lutte encore contre l'ennemi trop aigu qui respire ton odeur entre l'oreille et la nuque. Il susurre des invitations troubles où les pas s'abandonnent à l'appétit des marées. Tu sais que ton fils est là, qu'il t'aime de toute son enfance, qui ne connaît que le présent des cours d'école et des genoux griffés. Sa mère t'aime peut-être encore un peu. Souviens-toi que ses regards aux longs cils te portent au-delà des coups qui t'avaient appris que tu ne valais rien. Pas plus en tout cas que l'épagneul qui méritait sa rouste. Aujourd'hui, tu es trop vieux pour que ta mère ose te prendre dans ses bras. Au travers de la fenêtre de mon bureau, que je traverse du regard des centaines de fois par jour, de grands saules, des chênes et des peupliers meuvent leur frondaison lourde de sève et de lumière. En ce mois de juin, où le jour est bien plus long que la nuit, le moindre glissement d'air révèle le vert clair du dessous des feuilles. Et tout un peuple invite à s'allonger et disparaître dans un souci de hautes herbes que le vent peigne avec lenteur. Voilà, le dernier. Approche. Approche encore un peu, je t'en prie, au creux de mon oreille, comme si tu écoutais la mer retirée tout entière dans un coquillage. Raconte-moi ce que disent les songes. Cette nuit encore, la plaie a suinté ferme et les poings n'ont pas suffi à colmater la bouche. J'ai un peu forcé, c'est vrai, mais l'enfance, je l'ai pliée et repliée. Cédric Le Pinvin, Un sol trop fertile, aux éditions Une. Voilà. Donc vous avez vu ce qu'est cette poésie métaphysique quand même, avant tout, mais qui mêle le quotidien, qui est une poésie d'une grande clarté, et puis je dirais aussi, il y a là comme une espèce de catharsis, dans cette espèce d'auto-analyse permanente, voilà, qui signe ce qu'est la poésie aujourd'hui, en 2022. Cédric Le Pinvin, Un sol trop fertile, éditions 1. Ce livre vous coûtera 17 euros. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.